retour d'Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mercredi commence avec l'acte 2 du Premier ministre.
La prochaine année sera celle de l'accélération écologique, priorité d'Édouard Philippe lors de son discours de politique générale cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre annonce également la PMA pour toutes, examinée fin septembre par les députés dans le cadre du projet de loi bioéthique. Urgence économique et sociale aussi avec des baisses d'impôts. 350 euros de gagné par foyer pour la première tranche de l'impôt sur le revenu sur la durée du quinquennat. Les esprits se sont échauffés aussi à l'AG de Renault, affaire Ghosn, mariage raté avec Fiat Chrysler. Les actionnaires demandent des comptes. Nous irons aussi à Londres pour le lancement de la campagne de Boris Johnson. Il veut la place de Theresa May. Et puis au cinéma, pour un blockbuster, les Men in Black, 20 ans après, ils continuent de chasser les extraterrestres avec un sacré coup de jeune. Le temps s'améliore tout doucement. Météo complète à la fin de ce journal avec Sébastien Léas.
À 18h15, un jour dans le monde, nous sommes à Hong Kong, nous, pour observer ce mouvement qui n'est pas encore un mouvement de révolte au long cours, mais qui secoue Pékin en ce moment fortement. Vous entendrez un manifestant à Hong Kong et puis on essaiera de comprendre aussi ce qui se passera après avec notre premier invité ce soir. Nous sommes également en Suède avec des gens qui vivent en co-living et vous comprendrez ce que ça veut dire. 19h20, le téléphone sonne puisqu'on va décrypter le discours du Premier ministre avec vous Amélie, avec Sébastien Paour aussi à 19h. Et bien au téléphone sonne, c'est à vous de jouer. L'écologie, les impôts, l'assurance chômage, les retraites, la PMA. On a quelques détails de ces réformes, de cet acte 2, ainsi que l'appelle lui-même le Premier ministre. On a aussi un calendrier. À vous de nous dire ce que vous en pensez, ce que vous voyez venir surtout. 01 45 24 7000.
France Inter.
Un acte 2 donc, du quinquennat, tout d'abord écologique.
Du vert pour donner un coup de frais au mandat d'Emmanuel Macron. Et c'est évidemment Édouard Philippe qui tiendra le pinceau. Le chef du gouvernement a entamé sa deuxième déclaration de politique générale par cette ambition pour la planète.
Ces 12 prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique.
Et Sandy Dauphin, bonsoir.
Bonsoir.
Notre spécialiste de l'environnement. La majorité a bien entendu le message, apparemment, des dernières élections européennes. L'écologie est devenue une priorité des Français. Mais le gouvernement a-t-il des arguments concrets, convaincants, Sandy?
Eh bien, écoutez, le Premier ministre veut plus de sobriété énergétique, des transports plus propres, une alimentation plus saine, des progrès en termes de recyclage. Pour y parvenir, peu de nouvelles annonces. Il mise sur 3 lois, celle sur les transports, celle sur l'énergie qui seront votées avant l'été, et puis la troisième sur la lutte contre le gaspillage qui est décrite comme l'une des 3 priorités de la rentrée parlementaire. Édouard Philippe en a dévoilé l'une des mesures phares, la mise en place d'une consigne pour certains emballages. Sans donner de précision, un comité de pilotage va être mis en place. Le Premier ministre annonce également que tous les plastiques jetables seront bannis des administrations dès l'année prochaine. On savait que certains emballages à usage unique, comme les gobelets, les pailles, les touillettes, allaient être interdits par une directive européenne. S'agit-il de devancer cette directive ou d'en élargir le champ? Difficile à dire pour l'instant.
Un autre chantier prioritaire, la rénovation énergétique des bâtiments, Sandy.
Oui, le Premier ministre annonce une remise à plat de toutes les aides pour rénover son logement. Le crédit d'impôt sera remplacé par une aide plus massive, dit-il, pour les ménages les plus précaires. Mais Édouard Philippe reconnaît qu'il n'a pas de baguette magique pour éradiquer les passoires thermiques. Il demande aux parlementaires de réfléchir à de nouveaux leviers. Des millions de Français vivent dans des logements qui sont chauffés comme si les fenêtres étaient grandes ouvertes.
Sandy Dauphin, merci pour l'environnement donc à France Inter. Il y a donc urgence, a dit Édouard Philippe, pour l'écologie. Urgence sociale aussi, urgence économique. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale où vous avez suivi le discours dans son intégralité. Alors le Premier ministre a éclairci le calendrier, surtout pour des mesures attendues comme la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes.
Oui, vous avez raison, le calendrier précis sur la révision de la loi de bioéthique était effectivement très incertain et donc très attendu par les députés de la majorité. Et quand le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que ce texte serait bel et bien examiné dans l'hémicycle à partir de la fin du mois de septembre, une partie des rangs de La République En Marche s'est levée pour ovationner le chef du gouvernement. C'était, il faut le dire, un des rares moments d'émotion, d'exaltation qu'a suscité le discours de politique générale du Premier ministre cet après-midi. Alors en échange, l'exécutif a donc décidé de repousser la réforme constitutionnelle. Il ne l'a pas pour autant enterrée. Il estime que pour convaincre les sénateurs majoritairement de droite, il faut encore travailler. Et donc voilà comment dans ce calendrier parlementaire serré, c'est la promesse présidentielle sur la PMA qui l'a emporté sur la révision des institutions.
Et Karine, l'autre grand chantier, ce sont les réformes économiques.
Oui, les réformes économiques, avec d'abord celle de l'assurance chômage. Édouard Philippe a confirmé cet après-midi que notamment les secteurs et les entreprises qui recourent abusivement au CDD, au contrat court, seraient désormais sanctionnés, voire lourdement sanctionnés. Autre réforme qui frappait les bien partie de l'acte 2 du quinquennat, celle des retraites. Le gouvernement veut à l'avenir les mêmes règles pour tous les salariés. Autrement dit, comme il l'avait déjà formulé, il ne veut plus de régimes spéciaux, dont il promet toutefois d'en sortir progressivement. Et sur l'épineuse question de l'âge légal de départ à la retraite, ce sera 62 ans, un peu plus pour partir avec la totalité de ses points, mais le un peu plus n'a manifestement pas encore été tranché pour l'instant. Et puis un dernier mot sur la réforme fiscale qui s'annonce, 27 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages sur les 5 années de la mandature. Voilà ce qu'a calculé, ce qu'a affiché cet après-midi le chef du gouvernement, qui a bien sûr confirmé les baisses d'impôts sur le revenu en 2020 de l'ordre de 350 euros, notamment pour la première tranche d'impôt, est financée comme prévu par la suppression ou par la révision de certaines niches fiscales qui restent, cela dit, à détailler. Rien de précis pour l'instant n'a été dit. Un discours d'un peu plus d'une heure, donc cet après-midi, où le Premier ministre s'est adressé d'abord et avant tout à sa majorité.
Merci Karine Bécard à l'Assemblée nationale. Un Premier ministre qui s'adresse à sa majorité mais qui est chahuté par les oppositions. « Je suis inénervable », a-t-il lancé au plus vindicatif. Dans le pays des Lumières, on doute et on se respecte. On se respecte mais on ne retient pas les critiques. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France insoumise, qui lui répond dans la foulée à la tribune de l'Assemblée.
Compte tenu de notre résultat électoral, je suis parfaitement conscient de la difficulté de notre situation pour mener le combat. Le rapport de force est lourdement défavorable pour nous. La suite du combat s'annonce donc pour nous dans des conditions très dures. Nous les assumerons. Mais n'allez pas croire pour autant que tout vous soit permis de ce seul fait, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, savez-vous que vous avez, vous aussi, perdu l'élection? Mais je vois bien que non. Hier, vous avez rappelé que je comptais sur l'élection européenne comme sur un référendum contre votre politique. Mais c'est bien vrai, je l'ai fait, et c'est ce qui s'est passé. Oui, c'était un référendum, et vous l'avez perdu. Vous aviez lancé un défi solennel à l'extrême droite, et le président de la République avait dit que si jamais il venait à perdre, il y aurait de lourdes conséquences. Vous l'avez perdu. Et pourtant, vous voulez faire comme si de rien n'était.
Les propos de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon recueillis par Élodie Fauré. Alors Édouard Philippe n'aura pas de mal a priori à obtenir le vote de confiance avec sa confortable majorité. En revanche, les votes à droite, contre ou abstention pourraient donner des indicateurs précieux pour les prochains mois. La parole aux Français. Ce soir à minuit s'ouvre le référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Les organisateurs de ce RIP ont 9 mois pour récolter 4 700 000 signatures.
Allez, à 18h08 à Amélie, un autre président est en difficulté chez Renault, c'est Jean-Dominique Sénard.
Face à l'Assemblée Générale du groupe, des centaines de petits actionnaires réunis à Paris au Palais des Congrès pour demander des comptes sur l'affaire Ghosn ou encore la fusion avortée avec Fiat Chrysler. Un moment délicat pour le nouveau patron, affaibli juste avant l'ouverture de l'AG. On a appris que le président Macron aurait refusé de le voir, mais Jean-Dominique Sénard est quand même confirmé au conseil d'administration par les actionnaires. Notre reporter Maxime Debs, lui, a demandé ce que c'était d'être actionnaire de Renault aujourd'hui.
C'est d'avoir perdu 40% depuis quelques mois. Alors, je vais faire court. Schweitzer, c'était il y a 20 ans. L'action est une centaine d'euros. Déjà, il y a 20 ans, rendez compte. Et il avait fait voter en Assemblée Générale le droit pour le conseil d'administration de racheter ses actions jusqu'à 140 euros. Tout le monde a oublié ça. C'était en 97. Donc, on est 20 ans plus tard, en 2019. Quel gâchis. Si on n'a pas empêché Carlos Ghosn d'empocher quand même tous ces millions d'euros. Bon, puis maintenant, on connaît le résultat. Il s'est fait attraper. Bravo le japonais, parce qu'en France, ce ne serait pas passé. Hein. La garde à vue, c'est 48 heures. Hein. Allez, ils l'ont mis au frais pendant un bon moment. Hein. Alors, est-ce que c'est un coup monté de Nissan? Moi, je ne veux pas savoir. Je trouvais l'alliance très bien. J'étais dubitatif sur le rapprochement avec Fiat Chrysler qui arrive d'un seul coup. Puis voilà que ça se retire. Enfin, c'est ubuesque. Hein. On se demande par qui on est géré.
Voilà, un actionnaire de Renault, micro de Maxime Debs à l'AG, donc, du groupe à Paris. La colère d'une cinquantaine de surveillants de prison à Condé-sur-Sarthe au lendemain de la prise d'otage de deux d'entre eux par un détenu récidiviste. Ils ont refusé de prendre leur service ce matin. Les syndicats réclament davantage d'écoute. Marine Le Pen devra comparaître devant un tribunal correctionnel. La présidente du Rassemblement National est renvoyée en justice pour avoir diffusé des photos de crimes de Daesh sur son compte Twitter. Le juge d'instruction s'appuie sur un article du code pénal qui punit la diffusion de messages messages violents qui pourraient être vus par des mineurs. On y reviendra dans le journal de 19h. En Russie, on pensait qu'un vent de liberté soufflait. Finalement, les espoirs ont été douchés au lendemain de la libération du journaliste Ivan Golunov. Une manifestation contre les violences policières a tourné au traditionnel face-à-face avec les forces de l'ordre. Plus de 400 personnes ont été arrêtées à Moscou, parfois brutalement. Parmi elles, l'opposant numéro 1 au président Poutine, Alexei Navalny. Il a dénoncé la tentative de destruction de solidarité générale et l'intimidation contre ceux qui insistent. Lui veut conquérir le pouvoir au Royaume-Uni. Boris Johnson, le turbulent conservateur, ancien maire de Londres, ancien ministre des Affaires étrangères. Il a eu la tête de Theresa May et lance aujourd'hui sa campagne pour lui succéder à la tête des Tories et donc au poste de Premier ministre. Et pour faire la différence avec les 9 autres candidats, il promet de sauver le pays de la crise politique et de mettre en œuvre le Brexit. Rien de moins, c'est la correspondance à Londres d'Antoine Gignot.
C'est la version anglaise de « Tout va très bien, Madame la Marquise » qui a décidé de chanter Boris Johnson. Malgré les derniers chiffres sur le ralentissement de l'économie, malgré le rapport du gouvernement qui montre que le Royaume-Uni n'est pas du tout prêt à quitter l'Union européenne, lui ne parle que d'opportunités.
Depuis qu'on a quitté l'Union européenne et contre toute attente, la croissance économique a été plus rapide que dans le reste de l'Europe. Le taux de chômage est tombé à son niveau historique le plus bas. Les exportations se sont envolées et les équipes de foot anglaises ont gagné la Champions League et la Ligue Europa en battant d'autres équipes anglaises.
L'ancien maire de Londres promet aussi d'aller jusqu'au bout dans le bras de fer avec Bruxelles, quitte à sortir de l'Union européenne sans aucun accord. Pas question non plus de renier ses dérapages, les phrases qui comparaient les femmes voilées à des boîtes aux lettres ou les gaffes diplomatiques, Boris Johnson assume.
L'une des raisons pour lesquelles le public se sent éloigné de nous, c'est parce que trop souvent nous adoucissons, nous édulcorons nos propos.
Quant aux députés qui ne veulent pas d'un Brexit dur et qui risquent de se mettre sur sa route, Boris Johnson ne veut même pas y penser. C'est, dit-il, la volonté du peuple qui l'emportera. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Et Londres devra régler la facture du Brexit, la Commission européenne l'a rappelé. Le Royaume-Uni devra honorer ses engagements, même en cas de no deal de sortie de l'Union européenne sans accord. Hong Kong, sous le choc des violences policières, les pires jamais vécues depuis son passage de l'Empire britannique à la Chine. La police a tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes sur des manifestants. Les protestataires, par dizaines de milliers, tentaient de pénétrer dans le Parlement. Ils bloquaient les grands axes. Des jeunes, surtout, ils dénoncent en fait le projet de loi du gouvernement pour autoriser les extraditions vers la Chine continentale.
Et on y revient dans un instant dans Un jour dans le monde. Le sport ce soir, Amélie, avec le deuxième match des Françaises au Mondial de foot.
Les Bleus affrontent la Norvège, privée de son ballon d'or. Ada Hegerberg proteste contre la différence de traitement entre footballeurs et footballeuses. Coup d'envoi donc à 21h à Nice dans un stade comble. Environ 35 000 places vendues pour soutenir les Françaises. Peut-être un peu les Norvégiennes, mais surtout les Françaises. Lui doit renoncer au Tour de France. Chris Froome, quadruple vainqueur de la grande boucle, a chuté à l'entraînement aujourd'hui à Roanne. Un accident grave selon le patron de son équipe, une fracture ouverte du fémur selon un témoin sur place. Eux se livrent à une autre forme de sport, la lutte contre les invasions extraterrestres. Les Men in Black de retour au cinéma aujourd'hui dans un quatrième volet, mais désormais sans Will Smith ni Tommy Lee Jones. Ils ont laissé leur place à de nouvelles recrues, Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Et Corinne Pellissier, ils ont sorti l'artillerie lourde pour nous séduire.
Après l'échec commercial du dernier volet des aventures des Men in Black, il fallait du sang neuf. Un nouveau réalisateur, de nouveaux paysages et une nouvelle recrue, Tessa Thompson, dont le rôle de Molly, témoin dans son enfance de phénomènes impliquant des hommes en noir, munis de ce fameux appareil qui efface la mémoire.
Nous sommes une rumeur. Le secret le mieux gardé de la galaxie.
Embauchez-moi.
Elle sera 20 ans plus tard la candidate parfaite pour rejoindre le bureau londonien des Men in Black, où travaillent déjà Liam Neeson et Chris Hemsworth, avec lequel elle va former ce duo improbable, à la manière de Will Smith et Tommy Lee Jones en leur temps.
Agent M, bienvenue chez les Men in Black. Vous ferez équipe avec l'agent H.
Pas de cafard géant cette fois-ci à poursuivre, mais une taupe à l'intérieur de l'organisation qui les entraînera dans les plus folles aventures entre Londres, Paris, Naples et Marrakech. Une intrigue un poil décousue mais remplie d'humour, d'effets spéciaux, de courses-poursuites et de bagarres dans lesquelles ce sont les femmes qui mènent la danse. La stagiaire intrépide et futée contre le beau gosse irresponsable et arrogant, le combo gagnant de ce nouveau départ un peu calqué sur le volet de 97 qui a lancé le succès de la franchise, mais quand même rafraîchissant.
Nous sommes les Men and Women in Black.
Les Men and Women
in Black. Ah, il y a des Women in Black,
ouais, aussi. Okay. C'est au cinéma aujourd'hui.
Eh ben, formidable. Amélie, merci beaucoup.